en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission en deux parties de la séance commune Académie des sciences, Académie nationale de médecine, consacrée à la plasticité cellulaire, séance du 1er décembre 2009. On s'est rendu compte dans les années 2000 que les cellules, qu'elles soient embryonnaires ou adultes, étaient capables d'engendrer des cellules d'os, de cartilage, de tissus adipeux, de foie, de muscles ou encore de cœur, d'où le nom de plasticité cellulaire. Sur le plan fondamental, cette découverte a représenté un bouleversement de certains dogmes, voire une ouverture thérapeutique majeure, notamment dans la recherche sur le cancer. Dans cette deuxième partie, nous vous proposons d'écouter deux interventions plus spécifiquement consacrées à la fibrose rénale et au rejet de greffe de rein. Dans quelques instants, vous écouterez Jean-Claude Dussaul. Il est professeur à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, praticien hospitalier à l'hôpital Tenon à Paris. Sa communication porte sur le rôle de la plasticité cellulaire dans la progression et la régression de la fibrose rénale. Puis c'est Éric Rondeau qui prendra la parole sur la transition épithélio-mésenchymateuse dans le greffon rénal. Pour rappel, la transition épithélio-mésenchymateuse joue un rôle crucial dans la construction des différents éléments du corps humain et dans la différenciation des multiples tissus et organes. Le professeur Éric Rondeau travaille au service des urgences néphrologiques et de transplantation rénale à l'hôpital Tenon à Paris. Tout de suite, Jean-Claude Dussaul.
Nous allons passer à la deuxième partie de cette réunion, c'est-à-dire à la fibrose d'organes d'abord. Et la fibrose d'organes a été décrite essentiellement dans les reins. C'est pour cela que vous allez écouter successivement deux néphrologues. Le premier est Jean-Claude Dussaul, qui est chef de service à l'hôpital Saint-Antoine et qui dirige une équipe de recherche à l'unité INSERM de néphrologie de l'hôpital Tenon. Comme vous le verrez, il a un titre qui est particulièrement optimiste parce qu'il ne parle pas de la progression de la fibrose rénale, mais il parle de la régression de la fibrose rénale. Donc, il va nous expliquer de quelle manière on peut faire régresser une fibrose rénale constituée.
Donc, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette session de me donner l'opportunité d'illustrer la notion de transition épithélio-mésenchymateuse à propos de la progression et la régression de la fibrose rénale. Effectivement, je vais vous montrer un travail qui a été effectué dans le laboratoire, dans d'autres structures, qui montre que la plasticité des cellules rénales est au cœur de cette notion de fibrose rénale au cours des maladies rénales chroniques. Donc, nous avions, dans un travail précédent, montré que dans un modèle de néphropathie hypertensive ou néphroangiosclérose, il existait un développement expérimental de glomérulosclérose par carence en monoxyde d'azote qui peut reproduire en quelque sorte la dysfonction endothéliale chez l'homme. Et vous voyez sur cette diapositive que chez des animaux qui avaient été traités par NAM, un antagoniste du monoxyde d'azote pendant 4 semaines, il existait un épaississement des axes mésangiaux avec un dépôt de matrice anormale probablement lié à une activité anormale également des cellules mésangiales, qui sont des cellules de type mésenchymateux. Nous avions montré ensuite que lorsque ces animaux étaient traités par un antagoniste des récepteurs AT1 de l'angiotensine 2, le losartan en l'occurrence, pendant une puis surtout pendant 4 semaines, il était possible d'obtenir une régression de cette fibrose glomérulaire avec, comme vous pouvez le constater, un aspect qui évoquait fortement celui d'un animal normal. Donc la glomérulosclérose était induite par l'excès d'angiotensine 2 ou la carence en monoxyde d'azote et ce phénomène était réversible. Pour qu'il y ait une réversibilité de la fibrose, il faut non seulement que le processus de synthèse s'interrompt, mais qu'il faut également que les dépôts en excès soient détruits, dégradés. Et donc, dans un travail qui était associé au précédent, nous avions montré qu'il existait effectivement deux types de collagène principalement dans le rein déposés de façon anormale au cours de ce modèle de carence en monoxyde d'azote, c'est-à-dire en l'occurrence des dépôts de collagène fibrillaire, de collagène de type 1 dans les glomérules. Ici, vous en avez un exemple en immunohistochimie et en immunofluorescence, pardon. Et un dépôt anormal dans tous les compartiments, en particulier tubulo-interstitiel, du collagène qui est présent normalement dans le rein, le collagène de type 4. Et vous voyez ici que chez les rats qui recevaient ce LNAM, eh bien, il y avait un excès de collagène de type 4 également. Ce qui est intéressant, c'est que le collagène lui-même semble induire la présence de l'enzyme qui permet sa dégradation. Les métalloprotéinases, dont ici vous avez un exemple en enzymographie in situ, le MMP9, et vous voyez que spontanément, il existait une augmentation de l'activité gélatinase par rapport au rat témoin, ce qui permettait, lorsque l'on traitait les animaux par un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2, en bloquant la synthèse de collagène de type 1, et de type 4, de bloquer finalement non seulement la synthèse, mais de favoriser la dégradation, et donc de revenir à un phénotype rénal identique à celui des rats témoins. Au cours de ce travail, nous avions donc principalement focalisé notre attention sur la présence ou l'absence de matrices, mais nous avions peu recherché quelles étaient les modifications du phénotype des cellules rénales résidentes au cours de ces progressions ou régressions de maladies rénales chroniques. C'est pourquoi nous avons entrepris un second travail que je vais vous présenter maintenant et qui, lui, va évoquer la notion de transition épithélio-mésenchymateuse. Il s'agit de souris qui transgéniques pour un gène, la rénine en l'occurrence, qui permet d'avoir des taux de, ou des concentrations d'antocyanine 2 plasmatiques permanentes, indépendamment de la fonction rénale, parce que cette rénine est exprimée dans le foie. Et nous avons donc un modèle de néphroangiosclérose ou de néphropathie hypertensive chronique que vous voyez ici illustré par la comparaison des pressions artérielles chez les souris témoins et chez les souris néphropathes qui ont une pression artérielle aux alentours de 170 mm de mercure. À partir de 12 mois, ces souris développent une protéinurie importante, dont vous voyez ici l'exemple par rapport aux souris témoins. Et nous avons donc tenté de voir s'il était possible d'obtenir une régression de cette maladie rénale grâce à un autre antagoniste des récepteurs d'angiotensine 2, en l'occurrence l'irbesartan. Eh bien, alors que ce médicament était inefficace sur la pression artérielle, nous avons constaté une réduction tout à fait considérable de la protéinurie sans atteindre tout à fait les valeurs des souris témoins. Nous avons donc une régression au moins fonctionnelle de la pathologie rénale sous l'effet de ce médicament. Donc l'absence d'angiotensine 2 permet un retour de la fonction rénale à un état quasiment normal. Qu'en est-il des cellules rénales proprement dites ? Eh bien, ici, nous avons la confirmation, d'une part, que ces cellules produisent du collagène dans le groupe où la rénine est élevée, que j'ai appelé le groupe REN, R-E-N. Vous avez un exemple de dépôt de collagène vu ici en lumière polarisée par la coloration rouge Sirius, qui est confirmé par la mesure du messager de ce collagène de type 1 dans le cortex rénal. Donc il existe une fibrose un peu disséminée, glomérulaire mais aussi tubulo-interstitielle, et le fait de traiter les animaux par l'irbesartan, c'est-à-dire de bloquer finalement l'effet de la surexpression de la rénine, permet un retour à la normale en rouge Sirius et également lorsque l'on mesure spécifiquement l'expression du collagène de type 1 messager. Alors, en ce qui concerne les cellules vasculaires rénales, nous avons ici un animal normal. Ici, nous avons un animal malade, surexprimant donc la rénine. Nous voyons qu'il existe une modification considérable de la média avec des cellules qui prennent un aspect arrondi, c'est-à-dire des cellules musculaires lisses qui probablement deviennent des cellules myofibroblastiques productrices de collagène et de matrice en général. Nous avons aussi de la nécrose au sein de cette média. Donc tout se passe comme si les cellules locales, activées par les médiateurs des cellules inflammatoires que vous voyez ici en très grand nombre, induisent du collagène de façon anormale en modifiant leur phénotype. Lorsque les animaux sont traités secondairement donc par un antagoniste des récepteurs d'angiotensine 2, on voit que on a un retour à la normale de la média et on a une réduction considérable de la réaction inflammatoire. Donc, on peut donc dire que le traitement par un antagoniste des récepteurs d'angiotensine 2 entraîne une régression des lésions vasculaires rénales. Mais dans le rein, on sait qu'il existe des cellules hautement spécialisées, les cellules épithéliales glomérulaires viscérales ou podocytes, et ces cellules qui ont un rôle absolument fondamental pour la fonction de filtration glomérulaire ont une très faible capacité de prolifération. Et donc, pour beaucoup d'auteurs, la destruction de la structure des podocytes est un élément de point de non-retour dans l'insuffisance rénale chronique. Pour autant, dans notre modèle, nous avons pu montrer que les lésions de ces cellules épithéliales n'étaient pas irréversibles. Vous voyez deux protéines ici, qui sont des protéines exprimées par le podocyte, la podocine et la néphrine, qui interviennent donc dans le mécanisme de création de la membrane glomérulaire pour empêcher en particulier la filtration des macromolécules. Eh bien, ces protéines disparaissent quasiment des glomérules lorsque les souris sont malades d'un excès de rénine. Vous voyez ici en immunohistochimie ce qui confirme les résultats en expression de messagers pour la podocine. Nous avons le même résultat pour la néphrine. Sous l'effet d'un traitement secondaire, nous voyons réapparaître la podocine. Non seulement nous la voyons réapparaître, mais nous la voyons exprimée de façon tout à fait normale, périphérique, épithéliale, comme dans l'animal le témoin. Et nous voyons également la réexpression de la néphrine concomitamment à la suppression presque complète de la protéinurie. Donc là, nous avons un exemple donc, de réversibilité de ce phénotype des podocytes lorsqu'ils ont été altérés par l'hypertension capillaire glomérulaire. Troisième aspect, troisième compartiment, le compartiment tubulo-interstitiel, compartiment donc dans lequel a été décrit initialement la transition épithélio-mésenchymateuse dans un modèle dit de UUO, d'obstruction urétérale. Eh bien, nous avons étudié plus particulièrement deux types de protéines. Une protéine de structure dont on a déjà parlé, la écadérine, qui caractérise, lorsqu'elle disparaît, enfin, qui est un des éléments caractéristiques de la transition épithélio-mésenchymateuse. Et nous voyons effectivement une disparition de la écadérine dans le cortex rénal chez les animaux qui développent la néphropathie et une réexpression de cette écadérine chez les animaux traités, c'est-à-dire une transition mésenchymo-épithéliale vraisemblable, puisque nous en avons la preuve, en tout cas histologique, pour cette protéine. Nous avons étudié secondairement une protéine de fonction très importante pour le tubule proximal, qui est la mégaline, qui permet de réabsorber les macromolécules. Nous voyons ici que chez les animaux malades, il existe une diminution de l'expression de cette protéine qui est largement exprimée dans le tubule proximal. Donc, et nous voyons réapparaître la mégaline chez les animaux traités. Donc là encore, la fonction et la structure du tubule peuvent être modifiées par le développement de la fibrose et cette modification du phénotype est réversible, en tout cas dans un modèle un petit peu simplifié évidemment par rapport à la pathologie humaine que représentent ces souris. Alors, sur le plan mécanistique, on a beaucoup d'étapes qui ont été décrites pour expliquer le passage d'une altération initiale du glomérule pour aboutir à une fibrose rénale complète. Dans un travail qui est une revue de bonne qualité qui date de 2006, les auteurs évoquaient le rôle de la protéinurie, le rôle des cellules inflammatoires, la production locale de facteurs de croissance de chémokines et de cytokines, TGF-bêta en particulier parmi les facteurs de croissance, la transition épithélio-mésenchymateuse étant finalement l'antépénultième étape avant le développement de la fibrose. Et ici, évidemment, il n'était pas question de notion de réversibilité. Donc nous avons vu ici le rôle effectivement majeur de l'angiotensine 2 dans notre modèle, la protéinurie qui régresse également dans notre modèle. Nous nous sommes intéressés aux aspects des cellules inflammatoires et des marqueurs de la fibrose. Alors, en ce qui concerne l'inflammation, nous avons pris un marqueur classique qui est une chémokine que nous avons vu surexprimée chez les souris malades avec le MCP1 qui est donc présente dans le rein et qui disparaît au contraire lorsque les animaux sont traités par l'antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2. Vous voyez même que cette production de MCP1 semble jouer un rôle important, puisqu'il existe une bonne corrélation entre MCP1 et l'index des lésions histologiques gradées de 0 à 400 en fonction de l'état du cortex rénal. Nous avons d'autre part observé un marqueur de transition épithélio-mésenchymateux classique. En même temps que la eucadérine disparaissait, nous avons vu apparaître dans le tubule le FSP1, un facteur donc de type myofibroblastique. Ce facteur, lui aussi, apparaît de façon réversible, puisque lorsque les animaux sont traités, on peut observer sa disparition, ou tout au moins sa régression, comme chez les animaux témoins white type. Troisième type de marqueur, marqueur de fibrose rénale. On sait que l'angiotensine 2 est capable de faire surexprimer du TGF-β1. On en a déjà parlé au cours des précédents exposés dans le rein. Le TGF-β1 qui est un facteur profibrosant bien connu pour l'ensemble des compartiments rénaux. Eh bien, effectivement, le TGF-β1 est surexprimé en termes de messager chez les animaux malades. Cette surexpression est réversible. On voit également qu'en termes de protéines, en immunofluorescence, TGF-β1 est présent dans tous les compartiments rénaux, mais que sous l'effet d'un traitement par irbesartan, on retrouve l'absence presque complète d'expression de ce facteur de croissance dans le cortex rénal. Le CTGF est un facteur qui est associé au TGF-β, une sorte d'accessoire du TGF-β pour favoriser la fibrose. Lui aussi suit la même variation en fonction des traitements que le TGF-β. En réalité, l'existence ou la disparition d'une fibrose rénale dépend d'un équilibre assez complexe entre deux séries de facteurs, TGF-β d'un côté, bone morphogenic protéines de l'autre côté. Et TGF-β, on vient d'en parler, est aidé dans ce rôle sur la fibrose qui conduit ou qui passe par une transition épithélio-mésenchymateuse par des facteurs tels que le CTGF ou le GDF7. Tandis que le BMP, et plus particulièrement celui qui a été étudié dans le rein, c'est le BMP de type 7, lui est au contraire inhibé par des facteurs qui sont des antagonistes endogènes tels que USAGOAN dans le rein ou la NOGI. Ces facteurs antagonistes vont empêcher non pas la synthèse de BMP7, mais son action sur son récepteur pour permettre la transition mésenchymo-épithéliale. Donc nous avons voulu étudier le deuxième volet, c'est-à-dire le volet BMP dans notre étude, et nous avons été surpris de constater qu'il n'y avait pas de modification significative d'expression du BMP7 en miroir de celle du TGF-β, mais au contraire une modification essentiellement d'expression de ces antagonistes endogènes qui sont, je vous le rappelle, donc profibrosants. Et effectivement, lorsque les animaux étaient traités par rénine, on voyait une très forte expression de USAG dans le rein, comme si non seulement l'expression de TGF-β ne suffisait pas, mais qu'il fallait également enrayer l'action antifibrosante du BMP7, l'anogine accompagnée dans ces variations USAG. Eh bien, vous voyez que sous l'effet du traitement par irbesartan, cette USAG et cette noguine retournent à des valeurs faibles et identiques à celles des témoins. L'intérêt de ce travail, de ce point de vue-là, est peut-être de rechercher secondairement des antagonistes USAG1 ou de noguine, parce que ces antagonistes pourraient donc s'avérer être des bons facteurs antifibrosants, en permettant à l'expression du BMP7 de s'accomplir et de contrer l'action du TGF-β. Alors j'ai vu donc au cours de cette brève présentation un certain nombre de cellules dont le phénotype se modifie au cours de la néphrangiosclérose et acquiert des caractéristiques de myofibroblastes rénales. J'ai parlé des cellules mésangiales, des cellules musculaires lisses vasculaires, de cellules épithéliales tubulaires, de cellules épithéliales glomérulaires également. La liste n'est pas close, en particulier avec la cellule endothéliale. En effet, il a été décrit, comme ça a été rappelé précédemment, une transition endothélio-mésenchymateuse. Cette transition en pathologie a été décrite en particulier dans les modèles d'insuffisance cardiaque. Elle semble également impliquée dans les modèles de maladie rénale chronique. Ici, nous en avons un exemple. Dans un animal qui a été traité par angiotensine 2 par perfusion, nous voyons exprimer en colocalisation dans les cellules endothéliales, un marqueur de cellules endothéliales RECA et un marqueur mésenchymateux dont j'ai déjà parlé précédemment, FSP1. Donc le rôle de cette transition endothélio-mésenchymateuse reste encore à évaluer. En conclusion, je dirais que dans le modèle de néphrangiosclérose par surexpression du gène de la rénine, la progression de la fibrose rénale est accompagnée d'une réaction inflammatoire et intéresse les trois compartiments vasculaires, glomérulaires et tubulo-interstitiels, que l'angiotensine 2, qui est un activateur du TGF-bêta, joue un rôle majeur dans le développement de cette fibrose rénale, comme l'a démontré la régression des lésions rénales en présence de son antagoniste sur les récepteurs AT1. La progression de la fibrose est la conséquence des modifications du phénotype de cellules contractiles, comme la cellule mésangiale, et de cellules épithéliales, comme le podocyte ou la cellule épithéliale tubulaire. Ces modifications de phénotype, dans les conditions expérimentales que nous avons utilisées, sont réversibles, y compris pour le podocyte. Et enfin, le blocage de l'action des antagonistes endogènes des bonnes morphogenic proteins, des BMP, est une nouvelle voie thérapeutique potentielle à tester dans les modèles expérimentaux de maladies rénales chroniques. Je vous remercie pour votre attention.
L'orateur suivant est un néphrologue aussi. C'est le professeur Éric Rondeau, qui est chef de service à l'hôpital Tenon, qui est un grand spécialiste de la transplantation rénale. M. Schreier lui a tout appris. Hein. Et donc, il va vous parler maintenant de la transition épithélio-mésenchymateuse dans le greffon rénal et des causes donc du rejet chronique du greffon rénal.
Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette réunion pour leur invitation et me donner l'opportunité de présenter effectivement des travaux, mais là qui vont être plus d'investigations cliniques que nous avons réalisées chez les patients transplantés et qui montre certaines évidences pour l'existence d'une transition épithélio-mésenchymateuse dans le greffon rénal. Alors ce point est important parce que la fibrose progressive du greffon rénal est un phénomène relativement constant et qui aboutit à la transformation du parenchyme rénal que vous voyez ici en un tissu caractérisé essentiellement par une fibrose interstitielle très importante et une atrophie tubulaire avec, vous voyez, une diminution de l'épaisseur des cellules épithéliales. Ce phénomène met plusieurs mois ou plusieurs années à s'installer, et il est suffisamment important pour entraîner la perte de fonction progressive et l'arrêt du fonctionnement du greffon. Et ici, sur cette courbe de survie du greffon, vous voyez qu'après une période initiale, la première année où il y a un certain nombre de pertes aiguës, je dirais, ensuite, progressivement, chaque année, 4 à 5% des greffons s'arrêtent du fait du développement de cette fibrose progressive. Et évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi cette fibrose s'installe. Et des études longitudinales, notamment par un groupe australien, ont montré que des biopsies itératives chez les patients transplantés permettaient de mettre en évidence très précocement, ici, en fonction du temps après la transplantation, ici en fonction d'un score international de fibrose tissulaire, ont permis de montrer que et la fibrose interstitielle, ce sont les carrés noirs, et l'atrophie tubulaire, les carrés blancs, s'installaient très précocement et progressaient au cours du temps jusqu'à plus de 10 ans après la transplantation. Et on voit donc que ce mécanisme de fibrose, qui est un mécanisme progressif, est associé éventuellement à d'autres lésions, mais on va se concentrer sur la fibrose interstitielle et l'atrophie tubulaire. La vraie question, c'est qu'est-ce qui permet de déclencher ou de provoquer cette fibrose interstitielle ? Et évidemment, l'intérêt s'est reporté sur les cellules produisant la matrice extracellulaire, dont l'origine peut être les fibroblastes résidents dans le tissu rénal, également une transformation des péricytes ou cellules péri-adventicielles, peut-être le rôle de cellules souches, mais qui reste débattu. Et puis, le phénomène qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la transformation d'une cellule épithéliale tubulaire en une cellule capable de produire la matrice extracellulaire. Et cette cellule, elle est représentée ici. Dans le schéma complet, il faut remarquer que cette cellule, non seulement va se subir une transition, modifier son phénotype, mais en plus, franchir la membrane basale tubulaire, migrer dans l'interstitium et produire la matrice extracellulaire. Autant cette phase-là initiale est assez bien décrite, autant le franchissement de la membrane basale tubulaire et la colonisation de l'interstitium est aujourd'hui difficile à démontrer, en tout cas chez l'homme. Donc le schéma, vous le connaissez, simplement pour rappeler que les cellules épithéliales tubulaires ont un transcriptome tout à fait caractéristique avec l'expression notamment de la eucadérine, de la cytokératine et d'autres molécules, et qu'à l'opposé, les cellules mésenchymateuses ont également des facteurs très caractéristiques comme FSP1, la vimentine ou les facteurs de transcription SNAIL et SLUG. Et nous avons utilisé ces marqueurs sur les biopsies rénales pour essayer d'identifier leur présence et leur évolution au cours du temps. Je rappelle ce schéma pour indiquer qu'il y a une relation étroite entre la présence normale de la eucadérine, ici, qui assure par une liaison homotypique la jonction entre deux cellules épithéliales, et la eucadérine est reliée en sous-membranaire à cette molécule ici représentée en orange qui correspond à la bêta-caténine. Lorsque la eucadérine disparaît, soit parce qu'elle est détruite, soit parce qu'elle n'est plus produite, la bêta-caténine se trouve relarguée dans le cytoplasme, peut rentrer en interaction avec une autre molécule qui s'appelle F1, constituer un facteur de transcription qui va activer la transcription de gènes mésenchymateux et en particulier la vimentine. Alors, est-ce que ce phénomène de transition épithélio-mésenchymateuse a été décrit déjà au cours des néphropathies? La réponse est oui. Il y a eu les travaux dont a parlé Jean-Claude Dussaul, il y a eu les modèles expérimentaux notamment de ligature unilatérale de l'urtère dans un papier très important qui a été publié par le groupe de Eric Nielsen, où là, ils ont pu démontrer un phénomène de migration de la cellule épithéliale après sa transition passant dans l'interstitium, et puis d'autres modèles également où la fibrose rénale était associée à un phénomène de transition épithélio-mésenchymateuse. Qu'en est-il chez l'homme? Là aussi, un travail publié en 2002 a montré qu'en utilisant des marqueurs immunohistochimiques particuliers, on pouvait démontrer une transition épithélio-mésenchymateuse dans les maladies rénales humaines. Alors, chez les transplantés rénaux, il y a moins de publications dans la littérature, mais néanmoins, il y a des gens qui s'y sont intéressés, montrant qu'au cours du rejet aigu cellulaire, on pouvait mettre en évidence des lésions cellulaires de transition, et puis qu'au cours de ce qu'on appelle la néphropathie chronique d'allogreffe, aujourd'hui qu'on préfère appeler dysfonction chronique du greffon, eh bien, il y avait également, en fonction du degré de fibrose, un certain nombre de cellules qui présentaient des altérations. Alors, dans un travail initial que nous avions fait chez des patients transplantés, nous avons pu analyser le transcriptome à partir des biopsies rénales humaines faites chez les patients greffés. Et grâce à une étude avec les puces Affymetrix, nous avons pu montrer qu'un certain nombre de gènes présentaient des variations significatives en fonction du degré de fibrose, qui est représenté ici, grade 1, grade 2, grade 3, par rapport au contrôle. Ici, il s'agit d'une échelle logarithmique d'amplification de l'expression des gènes. Et il faut noter que ici, dans les gènes en rouge dont l'expression augmente en fonction du degré de fibrose, se trouvent les gènes de la transition épithélio-mésenchymateuse, alors qu'en bleu se trouvent les gènes de la différenciation épithéliale. Donc on confirme là, à l'échelon moléculaire, que ces phénomènes de fibrose sont bien associés à des modifications du programme génétique des cellules rénales. Alors nous avons fait l'hypothèse suivante. La fibrose dans le greffon rénal est secondaire à la transition épithélio-mésenchymateuse. C'est-à-dire que ce qu'on observe chez le patient transplanté, eh bien en fait, est le résultat d'une modification phénotypique des cellules épithéliales. Et pour répondre, pour confirmer cette hypothèse, il a fallu répondre à un certain nombre de questions. La première, c'est est-ce que ces changements phénotypiques épithéliaux de transition sont détectables précocement dans le greffon rénal avant l'installation de la fibrose? La deuxième question, c'est si on répond positivement à cette première question, c'est est-ce que ces changements phénotypiques épithéliaux prédisent le développement de la fibrose et la dégradation ultérieure de la fonction rénale? Et enfin, étant donné que dans les facteurs majeurs de progression de la fibrose rénale, un des facteurs est la cyclosporine, est-ce que les anticalcinurines, dont la cyclosporine, sont capables d'induire la fibrose rénale, et ce, via l'induction préalable d'une transition épithélio-mésenchymateuse? Alors, pour répondre à ces questions, nous avons fait différentes études cliniques. La première étude est une collaboration entre notre groupe à l'hôpital Tenon et l'hôpital Saint-Louis, où nous avons étudié 56 patients ayant reçu un greffon d'un donneur cadavérique. Ils sont avec une fonction rénale stable, ils ont une biopsie systématique à 3 mois indépendamment de toute manifestation clinique ou biologique. Et les tissus ont été analysés par méthode immunohistochimique. Nous avons ainsi pu caractériser le pattern d'expression d'abord de la bêta-caténine dans le rein humain normal, dans le greffon rénal à 3 mois, et vous voyez qu'il y a un fin marquage, plutôt basal ou basolatéral, de la bêta-caténine dans les cellules épithéliales, qu'il n'y a pas de diffusion cytoplasmique de la bêta-caténine. Et de même, nous montrons qu'aucune cellule épithéliale tubulaire n'exprime la vimentine. Greffon dit normal, biopsie d'implantation au moment de la greffe. En revanche, dans un greffon dit transition plus, thème plus, il y a 2 aspects. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, l'image n'est pas homogène. Premier aspect, un tubule normal, un fin marquage de la bêta-caténine, basale ou basolatérale. Et dans ce tube, qu'on retrouve ici sur une coupe serrée, 0 marquage par la vimentine. En revanche, dans ce tube ici, on voit que la bêta-caténine est surexprimée et diffuse dans le cytoplasme. Et ici, en parallèle, on a une augmentation de l'expression de la vimentine. Il en est de même dans les autres tubes qui sont marqués. Et mieux encore, ce n'est pas seulement à l'intérieur d'un tube, c'est une cellule dans un tube, car si vous regardez ici cette cellule, elle exprime la vimentine et elle a également un marquage plus important de la bêta-caténine. On a donc une vraie corrélation entre l'augmentation d'expression du gène mésenchymateux qui est constitué par la vimentine et la diffusion de la bêta-caténine. De même, nous avons montré que la E-cadérine, qui peut être exprimée par certaines cellules épithéliales dans le tubule, comme c'est représenté ici, en fait, ces tubules ici, vous voyez, qui sont normaux, n'expriment pas la vimentine. Là encore, on est sur une coupe serrée, c'est le même rein, la même coupe. En revanche, si on regarde ce tube ici qui exprime la vimentine, il n'y a plus d'expression de la E-cadérine. Donc on a vraiment une image en miroir, la perte des caractéristiques épithéliales s'accompagne de l'acquisition de marqueurs mésenchymateux comme la vimentine. Alors on a pu faire un score en fonction du nombre de coupes tubulaires positives ou négatives, et à partir de ce score, nous avons montré qu'à 3 mois, chez des patients qui sont stables sur le plan de la fonction rénale, 41% des greffons ont des marqueurs de transition épithélio-mésenchymateuse sur les biopsies systématiques. Donc la réponse à la première question, c'est oui, alors même qu'il n'y a pas de différence sur le degré de fibrose des greffons, on peut mettre en évidence une transition précocement après la transplantation rénale. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque d'apparition de ces marqueurs? Il y a des facteurs de risque cliniques. La créatinine du donneur, au moment de la transplantation, joue sûrement un rôle, comme si c'était les lésions du greffon. Ici, en rouge, les patients qui étaient TEM+ à 3 mois, la créatinine du donneur est significativement plus élevée. La durée d'ischémie froide et la fréquence de rejet aigu dans les 3 premiers mois, tous les 2 sont des marqueurs connus pour être des facteurs de risque de développement de la fibrose rénale à long terme et de perte des greffons par néphropathie chronique d'allogreffe. Sur un plan histologique, le score de Banff, qui mesure l'infiltrat interstitiel, vous voyez que les patients, bien que la fonction rénale soit stable, ont un infiltrat interstitiel important, eh bien sont plus souvent atteints de transition épithélio-mésenchymateuse. Et surtout ici, une lésion dite de tubulite, qui apparaît aussi comme un marqueur d'agression des lymphocytes vis-à-vis des tubules, et qui témoigne là d'une agression directe. Alors j'ai une image qui vous montre ça. Ici, vous avez une image avec 2 petits lymphocytes qui passent en général sous la membrane basale tubulaire et qui viennent au contact de la cellule épithéliale pour le détruire. Et vous voyez qu'on a ici un marquage très important de la bêta-caténine, contrairement aux autres cellules du tubule, avec ici la démonstration directe. Et en fait, il y a un travail in vitro qui a montré que c'est le TGF-bêta porté à la surface des cellules T qui active la cellule épithéliale. Deuxième question, c'est est-ce que ces marqueurs de transition, visibles à 3 mois chez des patients qui vont bien, est-ce que ces marqueurs permettent de prédire la fibrose ultérieure du greffon rénal? Et nous avons fait une 2e étude sur des cohortes indépendantes de patients, cette fois-ci en collaboration avec l'hôpital Saint-Louis et l'hôpital Necker et l'hôpital Tenon, où nous avons pu recruter 83 patients qui avaient eu une biopsie à 3 mois et une autre biopsie à 12 mois. Et nous avons marqué les progresseurs, c'est-à-dire ceux pour lesquels le score de fibrose interstitielle et d'atrophie tubulaire progressait d'au moins 1, une unité sur l'échelle de Banff. Et les résultats sont résumés ici. Sur les patients donc ça représentait environ 25% des patients, 21 malades ici. Les patients qui ont des signes de transition à 3 mois, eh bien, ont à 12 mois un score de fibrose interstitielle et d'atrophie tubulaire plus élevé que ceux qui n'avaient pas de transition, et ont surtout, quand on fait la différence entre 3 mois et 12 mois, une progression de la fibrose dans ce délai qui est plus importante que s'ils n'avaient pas de transition épithélio-mésenchymateuse à 3 mois. Alors, on a montré aussi qu'il y avait une corrélation entre l'intensité du score de transition à 3 mois et l'intensité de la fibrose à 12 mois, et de même, une corrélation entre l'intensité de score de transition à 3 mois et la progression de la fibrose entre 3 mois et 12 mois. Donc là, on tient un marqueur relativement important, précoce, avant même l'installation de la fibrose, qui nous permet de prédire quel malade risque de développer une fibrose accélérée du transplant. C'est un marqueur relativement solide, et dans une analyse multivariée, lorsqu'on regarde les facteurs indépendants de la progression, ici, on a le score de fibrose absolue à un an, eh bien, la transition à 3 mois apparaît comme un facteur significatif, de même que l'infiltrat interstitiel à 1 an. Et surtout, vous voyez que dans l'analyse multivariée, le seul facteur indépendant qui persiste pour noter cette progression de la fibrose interstitielle, c'est le score de transition observé à 3 mois. Alors, en plus, on a montré ensuite que les patients qui avaient une transition épithélio-mésenchymateuse dégradaient plus leur fonction rénale que ceux qui n'avaient pas de score de transition épithélio-mésenchymateuse. Ici, c'est la créatininémie représentée en fonction du temps. Et enfin, troisième question, est-ce que la cyclosporine joue un rôle sur ce phénomène? Tous nos patients dans les études antérieures étaient sous anticalcinurine et majoritairement la cyclosporine, donc on ne pouvait pas dissocier l'effet. Donc on a fait une étude expérimentale chez le rat où on a montré qu'à 7 et 15 mg par kilo, en fonction du temps, chez les rats traités par cyclosporine, on pouvait avoir une induction de FSP1, marqueur fibroblastique, avec un marquage dans des cellules épithéliales qui normalement ne sont jamais marquées par ce marqueur fibroblastique. De même qu'on avait une induction, ici c'est le facteur de multiplication de l'ARN par rapport au contrôle, on avait ici une augmentation de l'expression de la vimentine et de même des tubules qui expriment la vimentine. Alors chez l'homme c'est difficile, je vous ai dit, parce que la plupart des patients reçoivent des anticalcinurines étant donné que c'est un traitement efficace. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est tester l'épargne en anticalcinurine, c'est-à-dire qu'une fois la phase aiguë de la transplantation passée, on peut essayer d'arrêter les anticalcinurines qu'on remplace par d'autres médicaments et on regarde comment évolue et le score de transition épithélio-mésenchymateuse et la fonction rénale et éventuellement la fibrose. Donc on a profité d'une étude qui avait été faite à Lille, donc en collaboration avec nos collègues de Lille. Dans leur étude, ils avaient traité les malades pendant 3 mois par cyclosporine, mycophénolate mofétil et cortensil, donc 3 médicaments immunosuppresseurs. À 3 mois, ils faisaient une biopsie et ensuite ils randomisaient les patients, soit arrêt du mycophénolate mofétil et poursuite de la cyclosporine plus les corticoïdes, soit arrêt de la cyclosporine et poursuite du mycophénolate mofétil et des cortensils. Et une deuxième biopsie était refaite à 12 mois. Et donc pour résumer, ce qu'on voit, c'est que chez les patients qui sont sous mycophénolate mofétil, le score de progression de la transition entre 3 mois et 12 mois ne change pas. En revanche, chez les patients qui poursuivent la cyclosporine, le score de transition épithélio-mésenchymateuse, jugé sur la vimentine ou sur la bêta-caténine, augmente de façon significative. Et de même, on voit que chez les patients qui sont sous mycophénolate mofétil, la fonction rénale reste stable, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de transition épithélio-mésenchymateuse à 3 mois. En revanche, si on poursuit la cyclosporine chez ceux qui ont une transition épithélio-mésenchymateuse, il y a une dégradation de la fonction rénale, probablement corrélée à l'installation de lésions fibreuses. Donc, pour conclure, notre idée aujourd'hui, c'est que différents facteurs peuvent contribuer à la fibrose interstitielle et l'atrophie tubulaire. Probablement tous ou presque font appel à un phénomène de transition épithélio-mésenchymateuse. Il y a peut-être d'autres phénomènes en cause, mais qui sont difficiles à explorer. En tout cas, on sait que les facteurs classiques de fibrose ultérieure du greffon, comme l'ischémie froide, la réponse immune, les rejets aigus répétés, les inhibiteurs de la calcineurine, et puis d'autres événements intercurrents comme les pyélonéphrites, peuvent favoriser le phénomène de transition épithélio-mésenchymateuse qui conduit secondairement à la fibrose interstitielle et à l'atrophie tubulaire. Et probablement, il faut qu'on essaye ou d'antagoniser ce phénomène précoce ou d'identifier précocement les patients qui ont ces marqueurs de transition pour essayer de modifier leur traitement et limiter la progression de la fibrose. Alors, je conclue en remerciant les différentes équipes et les différentes personnes qui ont contribué à ce travail, notamment Hichen Xu Dubois, qui travaille à l'hôpital Tenant dans notre équipe, Alexandre Hertic, qui a beaucoup participé également, et puis les équipes de Necker, avec Christophe Legendre, de Saint-Louis, avec Denis Glotz, et Lille, avec Christian Noël, qui nous ont évidemment beaucoup aidés. Merci.
Donc, il me revient de conclure cette séance, je vais le faire brièvement. Quand on conclut une séance aussi intéressante, on essaie de voir quelles sont les questions qui se posent encore. Et bon, après avoir lu les contributions des intervenants et la littérature un tout petit peu, j'ai sélectionné un certain nombre de questions. Premièrement, quels signaux déclenchent la transition et pourquoi les cellules épithéliales sont-elles sensibles ? Alors, M. Thierry a répondu partiellement à ça. Il nous a montré une diapositive où il y avait d'innombrables facteurs qui déclenchaient la transition épithélio-mésenchymatelle. La question qui se pose, c'est de savoir quelles molécules cibler. Deuxième question, quelles sont les voies de signalisation et les facteurs de transcription spécifiquement mis en jeu dans les trois types de transition, l'embryogenèse, la fibrose d'organes, le développement tumoral. M. Puisieux nous a parlé de twist, mais ni M. Rondeau ni M. Dussol n'ont parlé de twist. Donc je ne sais pas si ce facteur intervient dans la fibrose d'organes. Alors, une question qui a été posée par M. Puisieux, quelles sont les différences entre fibroblastes résidents, myofibroblastes issus d'une métaplasie contractile et cellules mésenchymatelles générées par la transition? Il nous a dit que c'était très difficile de répondre à cette question. Ensuite, quelles sont les places respectives de la transition épithélio-mésenchymateuse et de la transition endothélio-mésenchymateuse dans la fibrose d'organes? Tout aussi bien M. Dussol que M. Rondeau ont fait place au deuxième processus. La transition épithélio-mésenchymateuse s'accompagne-t-elle obligatoirement d'une migration cellulaire ou le changement de phénotype suffit-il à sa définition? La transition épithélio-mésenchymateuse est-elle réversible? Alors, la réponse est oui, semble-t-il. Et les médicaments agissant sur la fibrose interviennent-ils uniquement sur la synthèse des composants de la matrice ou en amont sur la transition elle-même? Donc là, la réponse est probablement oui. Et enfin, ce que nous a dit M. Puisieux, la chimiorésistance aboutissant à sélectionner des cellules exprimant les marqueurs mésenchymateux et embryonnaires, comment cibler ces cellules par des thérapeutiques nouvelles? Voilà, il y a bien d'autres questions, mais on se contentera peut-être de celle-là. Je voudrais terminer en remerciant tous les orateurs qui ont vu que la séance a duré un peu plus qu'il était prévu du fait de l'intérêt de leur présentation, et je les remercie.
C'était Éric Rondeau, il s'exprimait sur la transition épithélio-mésenchymateuse dans le greffon rénal. Le précédait Jean-Claude Dussol qui évoquait pour sa part le rôle de la plasticité cellulaire dans la progression et la régression de la fibrose rénale. Tous les deux s'exprimaient dans le cadre d'une séance commune Académie des sciences, Académie nationale de médecine sur la plasticité cellulaire de l'embryon à la fibrose et au cancer. Restez à l'écoute de nos émissions et téléchargez la première partie de cette séance avec Jean-Paul Thierry, Alain Puisieux et Pierre Savanier. Tous les trois reviennent sur les principes des mécanismes de plasticité cellulaire, Pierre Savanier s'intéressant plus particulièrement à la réparation de blessures. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.